Vous êtes sur RTL. Sur RTL.
Merci Christelle. Et bonne Saint-Valentin à vous. Merci. Avec votre amoureux.
Voilà.
Nous partons pour la Moselle qui n'est pas encore reconfinée. Le ministre de la Santé, Olivier Véran, a alerté jeudi soir sur la situation inquiétante en Moselle où un nombre important de cas de variants sud-africains et brésiliens de coronavirus ont été détectés, pouvant justifier des mesures de contrôle supplémentaires. Donc Philippe, qui est directeur d'une usine au Luxembourg mais qui habite la Moselle, est directement concerné. Et il nous dit, Philippe, non.
Exactement.
Mais pourquoi ?
Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que je suis persuadé que l'application stricte des gestes barrières et du couvre-feu suffit. Mon exemple, il est très simple. Mon fils n'a pas respecté les gestes barrières sur un chantier. Il a eu le Covid, sa copine aussi, ses beaux-parents aussi et sa belle-sœur aussi. Il habite chez moi. Nous, on ne se touche pas. On respecte les gestes barrières à l'intérieur de la maison. Et ni ma femme ni moi n'ont été malades.
Quel âge il a votre fils ?
Il a 21 ans et moi 62.
Et comment vous faites, parce que ça c'est un mystère, pour respecter les gestes barrières? C'est-à-dire que vous ne déjeunez et ne dînez jamais à la même table?
On dîne à la même table, on déjeune pas à la même table, on dîne à la même table, on ne se touche pas.
Bah oui, mais vous êtes à combien lorsque vous dînez? Vous êtes en face de lui, à côté de lui?
À 2 mètres environ.
À 2 mètres? Vous avez une grande table?
Oui, c'est une table ronde, donc ça... Ça fait une certaine distance, effectivement.
Bon, évidemment, vous ne portez pas les masques.
Non.
D'accord. Et ensuite, à aucun moment de la journée ou de la soirée, vous faites une activité ensemble, regardez la télévision ensemble, être proche l'un de l'autre, que sais-je?
Effectivement. D'accord. Effectivement, mon fils, il a la télé dans sa chambre et il se remet dans sa chambre avec sa copine et nous, on est au salon.
Ah, parce que la copine vit chez vous?
Oui.
Ah, vous êtes sympathique. Mais l'hôpital sous tension, et les hôpitaux sous tension, ça peut être le cas à Metz. Est-ce que ça pourrait, selon vous, justifier qu'on reconfine?
Écoutez, si je me rappelle bien, il y a un mois, c'est Nancy qui disait il faut reconfiner Nancy, c'est la merde de Nancy. Mmh. Depuis, le taux d'incidence, Nancy n'a pas été reconfiné, le taux d'incidence a baissé. De manière assez significative. Pour moi, on n'est pas encore aux dernières extrémités qui imposeront un reconfinement qui est catastrophique pour le moral des gens.
Mais justement, puisque vous êtes de Metz, c'est le maire des Républicains, François Grosdidier, qui souhaite un reconfinement local. Le sentiment que vous avez quand vous parlez avec les Messins, c'est qu'ils sont plutôt pro-reconfinement ou anti-reconfinement ?
Fondamentalement anti-reconfinement. Vous savez, c'est une région, la Moselle, où les gens sont... disciplinés. Là, on parle de 300 cas qui sont répartis plutôt sur l'est du département, c'est-à-dire ce n'est pas la région de Metz ni de Thionville. Et pourtant, la région de Metz et Thionville, ce sont les régions des gens qui vont travailler au Luxembourg. Donc, on pense qu'il y a un facteur inconnu qui fait qu'un certain nombre de personnes se sont confinées, infectées.
Et on ne sait pas pourquoi, c'est surtout ça. Voilà, j'ai écouté le ministre hier, le variant sud-africain, brésilien, on ne sait pas si c'est. Il y a peu de gens qui ont voyagé a priori, on n'arrive pas à identifier, on parle toujours de tracé, mais on ne sait pas comment ni pourquoi il est là, ce variant.
Absolument, on ne sait pas pourquoi. Écoutez, vous avez eu des gens qui sont allés au Costa Rica, qui se sont retrouvés en quarantaine au Costa Rica, parce que d'abord, ils n'avaient rien à y foutre, si vous voulez mon avis.
C'est leur vie. Vous êtes marrant. Ils ont le droit de voyager pour s'ils veulent être au Costa Rica.
Ils ont le droit de voyager, mais enfin, c'est un principe de prudence en ce moment. Il y a des choses sérieuses à faire. Je pense qu'il faut être sérieux. Être sérieux, ça veut dire...
Donc on n'a pas le droit au voyage touristique en ce moment?
Moi, je trouve ça absolument incroyable.
Non, mais c'est délicat comme question. C'est intéressant d'ailleurs. C'est intéressant ce que vous dites, Philippe. Est-ce que chacun est libre d'aller aujourd'hui dans un pays étranger pour du bon temps, ou est-ce qu'au contraire, au nom de la solidarité, du collectif, chacun dans sa propre vie doit faire attention à ce qu'il fait et, comme vous dites, n'a pas aller au Costa Rica en vacances? Chacun répond à la question en même temps qu'il écoute l'émission.
Nos libertés sont déjà suffisamment impactées par le couvre-feu, par les différentes règles qu'il faut respecter. J'ai le sentiment que le confinement appliqué à un seul département n'aurait pas de sens,
oui.
Parce que vous allez quand même pas... les frontières sont poreuses. Vous savez que 30% du personnel hospitalier au Luxembourg est français. Donc vous pouvez pas empêcher les Français d'aller travailler au Luxembourg. Ça fait 100 000 personnes en tout. derrière, il y aura forcément une passoire et il y aura forcément une contagion. J'ai entendu tout à l'heure Patrick Weiten parler. Moi, je suis d'accord avec le fait que si on dit que la solidarité nationale doit s'appliquer, on applique un quota de doses plus important dans les régions qui sont plus infectées que les autres. Et ça donnera une excellente occasion de tester l'efficacité des vaccins sur une population infectée.
Bon, bah écoutez, merci grandement. Et Metz, évidemment, que préfecture de la Moselle et les sous-préfectures, les villes importantes de la Moselle, c'est Thionville, c'est Sarreguemines, c'est Sarrebourg et c'est Forbach. Et c'est là qu'on nous écoute très souvent. Non, mais on nous écoute. RTL a un lien tout à fait particulier avec Metz et avec le Luxembourg, évidemment.
Bien sûr.
Puisque c'était Radio Luxembourg lorsque nous étions, je dirais même pas enfants, parce que moi, j'ai jamais connu Radio Luxembourg, en fait. Je crois que ça a changé en 66 ou 67. Merci, Philippe, pour ce premier témoignage. Merci. Alors, c'est une journée un peu particulière parce que la Saint-Valentin est donc dimanche. Cher Grégory Carradini.
Oui, absolument, ça je l'ai noté depuis l'année dernière déjà.
Il essaye de se rattraper parce que il se conduit pas bien avec Madame Carradini, donc il essaye maintenant que voilà, il a été pris en faute. Donc vous avez acheté votre petit cadeau pour dimanche ?
Bah, malheureusement, je peux pas le dire parce que
d'accord.
Si toutefois à l'écouter l'émission, je
on interrogera les auditeurs sur ce qu'ils vont faire à la Saint-Valentin, s'ils ont acheté des cadeaux et tout ça, et puis on va mettre une petite bande son. Peut-être des chansons d'amour les plus écoutées, les plus remarquables, les plus larmoyantes, que sais-je ?
Ben avec plaisir, je peux vous proposer d'ores et déjà Juliette Gréco.
Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses tendres.
Ça c'est beau, non ?
C'est magnifique.
Je vais essayer de pas chanter parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit faut que t'arrêtes de chanter sur les chansons.
Quelqu'un d'autre que moi ?
Oui.
Ah.
Alors c'est dur pour moi parce que j'aime bien chanter. Il m'a dit c'est faut que t'arrêtes quoi.
J'espère que la personne n'écoute pas parce que elle serait pas contente.
Je vous aime.
13h08, on continue à tout de suite, on va parler de la Moselle avec William encore.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et bien évidemment, si vous appelez Valentin, appelez-nous. Ce serait rigolo d'avoir des Valentins pour la Saint-Valentin. Bonjour Laurent Tessier.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il reconfiner les départements où la situation sanitaire se dégrade ? Le ministre de la Santé, Olivier Véran, alerte sur la situation inquiétante en Moselle avec un nombre important de cas de variants sud-africains et brésiliens détectés. Le maire de Metz souhaite un reconfinement local. Le président UDI du département de la Moselle était l'invité de RTL Midi à Christelle Robière. Souhaite-t-il aussi un reconfinement ?
Non, moi je ne suis pas favorable. Je préfère des mesures plus ciblées. Il faut quelques mesures intermédiaires encore et voir comment l'évolution on peut permettre d'infléchir la courbe.
Cette mesure au cas par cas est-elle souhaitable ? Eh bien, n'enfermons plus la population, demande Thierry sur la page Facebook de l'émission. Ce serait contre-productif. Il existe un chemin pour l'éviter. Je n'ai pas oublié, nous dit Marc, les propos du porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. On est fatigué de tout ça, s'énerve Marie. On est à bout comme tout le monde. Il faut protéger la santé mentale des Français. Et pour Johan, on est en train de reporter la terrible échéance en ne voulant pas reconfiner pendant les vacances scolaires.
Nous avons identifié dans ce département de la Moselle plus de 300 cas de mutations évocatrices de variants sud-africains et brésiliens ces 4 derniers jours. Il y avait déjà 200 cas supplémentaires identifiés les jours précédents, a indiqué hier Olivier Véran au cours d'une conférence de presse. Nous serons avec William dans une seconde, mais Elisabeth d'abord, qui est maman au foyer en Moselle. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Pascal.
Et merci d'être avec nous. Confinement ou pas confinement pour votre ville et votre département ?
Moi je suis contre le confinement.
Et pourquoi ?
Parce que moi, disons, nous, on habite à la frontière du Luxembourg. On est vraiment, un kilomètre du Luxembourg. Et je me dis, avec le nombre de frontaliers, comment faire pour gérer ? C'est impossible de faire un confinement strict comme au mois de mars. Il y a trop de monde qui passe la frontière.
Mais au mois de mars, précisément, comment ça se passait ?
Au mois de mars, vu qu'il y avait les frontaliers, il y avait beaucoup d'entreprises. Disons, au Luxembourg aussi, ils avaient fait les mêmes dispositions qu'en France.
Ah oui.
Ils avaient aussi fait un confinement strict. Donc là, ça se posait moins le problème.
Bien
tandis
sûr.
Que là, au Luxembourg, Bah, c'est pas le cas. Eux, ils ont commencé à faire un petit peu du relâchement, quoi, du relâchement. Ils ont réouvert, etc. Il y a que les bars, restos et tout qui sont fermés. Mais ou sinon, le reste, la culture, ça fonctionne au Luxembourg.
Philippe, je lui posais la question, hein, quel sentiment il avait sur le reste de la population. Il me disait, les gens sont anti-confinement. Je vous pose la même question, Elisabeth.
Eh ben, c'est vrai qu'autour de moi, la plupart des personnes disent non au confinement. On en a marre. Hein. C'est vrai que, point de vue moral, c'est ça qui devient lourd. Hein.
Ben, j'imagine, effectivement. Donc, en fait, vous êtes comme les Français, ce qui est bien normal, d'ailleurs, dans le département de la Moselle. Votre fille, par exemple, aujourd'hui...
Elle est encore au collège, mais, quoi, au lycée, mais là, elle se pose la question à savoir ben, quelle mesure va être décidée ce soir, vu qu'apparemment, il propose peut-être la fermeture des établissements scolaires en avance par rapport aux vacances scolaires.
Parce que la Moselle n'est pas encore en vacances, ce sera la semaine prochaine.
Voilà, exactement. Enfin. Mais là, je vois par exemple dans le lycée de ma fille, ben, mercredi, ils ont détecté un cas variant sud-africain.
Et on ne sait évidemment pas l'origine, hein. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. On ne sait pas comment le sud-africain est arrivé en Moselle.
Bon, je sais que la Moselle, c'est un département qui est vraiment... Il y a beaucoup de flux, il y a beaucoup de monde qui circule, etc. Mais je veux dire, en plus, comme il disait, il n'y a pas de cluster. C'est vraiment des cas à droite, à gauche dans la Moselle. Bon, donc, c'est le grand mystère.
Bon, on a eu Elisabeth et Philippe qui sont anti-confinement et manifestement arrivent William et Philippe qui sont des pro-confinement. Donc, vous allez pouvoir dialoguer les uns avec les autres. Peut-être Philippe, pour commencer, qui est agent hospitalier dans la Meuse. Bonjour Philippe. Vous dites qu'il faut reconfiner localement. Oui. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à Elisabeth quand vous l'entendez? Bonjour Philippe.
Bonjour. Eh ben, je dirais tout simplement à Elisabeth, bien sûr que c'est pesant pour les gens, pour le moral et tout. Mais si on ne prend pas des mesures draconiennes, on ne s'en sortira pas. Ce n'est pas possible. Et en plus, les variants sud-africains et mexicains, on ne connaît pas très très bien les conséquences. Alors, c'est sûr que ça pèse sur le commerce, ça pèse sur les gens, mais si les mesures ne sont pas prises draconiennement, on ne s'en sortira pas. Il faut vacciner, il faut faire du dépistage. On a parlé du Luxembourg. Le Luxembourg a fait du dépistage très précoce et des grandes vagues de vaccination. Et il faut isoler. Je pense que le département de la Moselle, qui n'est pas loin de la Meuse, qui n'est pas loin de la Meurthe-et-Moselle, du Luxembourg et bien d'autres départements voisins, ça sera une poudrière. Alors bien sûr que c'est local, c'est peut-être 5 cas dans un village, c'est peut-être 20 à Metz même, mais si ces gens-là se bougent, ça prendra une ampleur et arrivera un moment où on ne maîtrisera plus. Il n'y a qu'à regarder le CHR de Metz et de Thionville, ça commence à être engorgé.
Alors, réponse d'Elisabeth.
Oui, mais le problème, c'est qu'en France, il y a toujours le problème de l'isolement. C'est bien beau de tracer de dépister les personnes, mais ben après ça s'arrête là. On n'arrive pas à isoler. Donc, puis on voit bien que même quand on fait un confinement, etc., ben ça empêche pas le virus d'être toujours là, parce qu'on voit bien en ce moment en Australie, avec l'US Open d'Australie, ils ont été obligés de faire aussi un reconfinement alors que soi-disant tout était géré, c'était bon point.
Oui, mais madame, regardez voir les gens qui sortent. Regardez les queues dans les magasins qu'il y a. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout conscients du problème que ça pose.
On pourra jamais régler ce problème-là. Il y aura des personnes qui seront hostiles.
Alors, madame, on fait rien. Et puis, malheureusement, si vous venez de frapper par le Covid, vous allez comprendre que y a des mesures à prendre. Bien sûr que c'est pesant. Même moi, ne pas aller en vacances, c'est pas la mort. Je suis désolé. On peut attendre. Il faut être aussi solidaire. Des restaurants, des bistrots qui sont fermés. Et si on n'arrive pas à enrayer, mais c'est l'économie du pays qui sera mise à terre. Donc c'est à tout citoyen à réagir, à éviter de sortir, à respecter les gestes barrières. Beaucoup de gens ne le respectent pas, madame. Je suis désolé.
Non, mais je sais.
Mais on n'a pas le choix, madame. On n'est pas privé, même si le département de la Moselle venait être confiné, ce n'est pas la mort, madame. Regardez ce qui s'est passé pendant la guerre. Les gens ne pouvaient pas sortir. Ils étaient privés de manger. Ils mangeaient avec des rations. Ils ne pouvaient pas se déplacer.
Oui, mais on ne peut pas comparer une autre période. La guerre, c'est la guerre.
Parce que dans ce cas-là, madame, il faut s'adapter à la situation.
Oui, mais madame, le président nous a dit que dans ce cas-là, c'était une guerre. Mais dans ce cas-là, si c'est une guerre, on prend exactement les mêmes mesures. C'est-à-dire, quand il y a des personnes qui se présentent dans les hôpitaux, c'est malheureux à dire, mais on va voir celui qui a une chance de survie. Voilà, c'est une mesure de guerre.
Madame, malheureusement, ça ne sera pas que les personnes âgées. Et je ne voudrais pas être à la place du président et du premier ministre, parce que je pense que même eux font au coup par coup, parce que on connaît pas l'évolution. Il y a un flux de gens. Metz, pas loin du Luxembourg, il y a un flux de trafic routier considérable. Donc le virus se déplace. Mais c'est très facile à critiquer, madame. Mais quand vous êtes au pied du mur, c'est très difficile. Bon. La critique est facile. Et le français n'est jamais prêt pour une réforme.
Bon, échange entre Elisabeth et...
Madame, on devrait y faire très attention.
Échange entre Elisabeth et Philippe, comme en signe de Saint-Valentin, pourquoi pas. C'est intéressant de vous écouter, parce que c'est évidemment deux familles de pensées. Moi, ce qui m'ennuie, Philippe, dans votre démonstration, c'est que vous dites « on s'en sortira pas sans ça ». Bon, j'ai entendu le même discours il y a 3 semaines, et il y a 15 jours, Emmanuel Macron a dit « stop » et a repris le pouvoir, d'une certaine manière, sur les experts. Factuellement, ceux qui annonçaient une explosion de l'épidémie il y a plus de 3 semaines, factuellement, et je veux pas entrer en polémique, ils se sont trompés.
Bien sûr.
Ils se sont trompés. Les chiffres aujourd'hui baissent. C'est-à-dire que le taux d'incidence baisse, le nombre de personnes en réa a baissé sur les 8 derniers jours, le R0 a baissé, etc. Donc ça, c'est un fait. Donc ceux qui sont les experts, et pas n'importe qui, c'était juste le président du conseil scientifique, ils se sont trompés. Donc quand vous dites on ne s'en sortira pas sans cela, sans ces mesures drastiques, j'ai encore dans l'oreille des personnes au plus haut niveau l'hospitalisation en France, qui nous ont expliqué qu'il fallait absolument reconfiner il y a 3 semaines. Et il y a 15 jours, je le répète, c'était il y a pile 15 jours, Jean Castex est arrivé sur ordre, évidemment, du président de la République, et il a dit on ne reconfine pas. Bon, après...
Moi, je pense que c'est un enjeu économique.
Ah non, les chiffres n'ont pas explosé. Moi, je parle même pas de ça. Les chiffres n'ont pas explosé, Philippe. Ils se sont trompés médicalement, sanitairement. Point. Le R0, il baisse en France.
Voisins, regardez le monde qu'il y a dans les hôpitaux.
Non mais,
j'ai encore travaillé.
Non mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Factuellement, je vous le répète, le R0 a diminué. Le nombre de contaminations pour 100 000 habitants a diminué. C'est-à-dire que ces chiffres-là ont baissé. Et les experts nous annonçaient que ça allait exploser. Donc, ça va peut-être exploser. L'épidémie, elle va peut-être reprendre. Mais déjà, ces 15 jours-là, il ne s'est rien passé. Donc, c'est pour ça que je suis, pardonnez-moi de le dire, un peu méfiant, voire défiant. Parfois, sur ce qu'on me dit. Merci Philippe, en tout cas, et merci à Elisabeth, c'était intéressant.
Merci
13h20,
à vous, Pascal.
13h20, et peut-être parce que ça va être la playlist de la Saint-Valentin. Nous étions tout à l'heure avec Juliette Gréco, et qui, Greg Caradoni.
Je vous propose Michel Berger. Il manque quelqu'un près de moi. Quelques mots d'amour.
Ah oui, mais c'est pas gay, il manque quelqu'un.
Ça reste de l'amour.
Ah oui, mais ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, c'est l'exact contraire.
Pas de problème.
Rien compris au concept de la Saint.
Ça vous plaît, ça?
J'ai le droit de bouger si je chante plus.
Bouger, vous pouvez.
Tiamo, c'était qui ça? Umberto Tozzi.
Absolument.
C'est quelle année ça? 77, 78?
Quelque chose comme ça, oui.
Ça, je pense que j'étais en troisième. Je me souviens de mon amoureuse.
Ah, comment s'appelait-elle?
Je ne peux pas dire. Ah. Je ne peux pas dire parce que c'est secret. 13h, mais je crois que son prénom commençait par un V.
Comme Véronique?
Ou Valérie?
Ou Valérie.
13h21, à tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Vous savez qui nous écoute, Pascal?
Non.
George Lang.
George Lang, George la légende.
Mais oui.
La légende, dit, George Lang.
Mais Greg, il faut absolument que tu mettes cette chanson.
Ah oui.
Et alors, s'il y a bien quelqu'un qui sait faire des playlists d'amour, c'est Georges. Et dimanche à 23h, il fera une émission, une collection spéciale Saint-Valentin.
Non mais ça c'est exceptionnel. Et vous savez que c'est une des chansons qui est les plus demandées dans les cérémonies funèbres, dans les enterrements, dans les églises aujourd'hui, notamment aux États-Unis.
Merci de mettre un peu de joie.
Non, mais elle est sublime, bonne cette chanson. Mais
oh. Après, je vais pas faire d'ombre à Georges, mais ma playlist est quand même pas mal.
Elle est remarquable. On parlait tout à l'heure, il y a quelqu'un qui disait le Costa Rica, c'était Philippe. Je plains pas ceux qui sont partis au Costa Rica, ou plus exactement, ils n'avaient rien à faire au Costa Rica pour un voyage d'agrément. Et c'est vrai que sur Internet, sur les réseaux, sur Twitter, il y a quelqu'un qui dit « Je ne plains pas du tout les touristes français bloqués au Costa Rica. Ils ont voulu partir loin en vacances en pleine pandémie, qu'ils assument leur choix. » Je comprends ça, mais j'aime pas cet esprit-là. Voilà, je trouve que c'est un état d'esprit aujourd'hui qui est pas agréable, disons-le, Laurent Tessier.
Et vous pouvez continuer de nous appeler sur d'autres sujets dès maintenant au 3210. C'est cette question, pourquoi les jeunes regardent moins les émissions politiques traditionnelles? Jean-Luc Mélenchon a été plus suivi par les 25-49 ans hier soir sur la chaîne C8 que Gérald Darmanin et Marine Le Pen sur France 2. Et bien la télévision est pour moi un spectacle du théâtre, réagit Aurélien sur nos réseaux sociaux. Les journées sont déjà assez pénibles, écrit Vincent, pas besoin d'en remettre une couche avec des émissions trop sérieuses, sans saveur. Et pour Julie faire le show, c'est la seule façon de nous intéresser à la politique, encore plus le soir. Alors souhaitez-vous plus de show politique à la télévision? 3210.
Le ministre de la Santé, Olivier Véran, est aujourd'hui dans le département de la Moselle. Je crois qu'il n'est pas encore arrivé, ça sera cet après-midi. Il va évaluer la situation, échanger avec l'ensemble des élus du territoire, les acteurs de la santé, le préfet, les responsables de l'agence régionale de santé, et mener une concertation afin d'anticiper les réponses qu'il nous faudra trouver collectivement, a-t-il déclaré, je le mets entre guillemets. William est avec nous. William qui habite Metz, cette belle ville de Metz. Pascal. Bonjour.
Bonjour à tout le monde.
Alors, votre sentiment?
Mon sentiment, on va être simple, pour moi, un nouveau confinement, en tout cas localisé au département de la Moselle, serait une erreur pour plusieurs motifs. Alors déjà hier, j'entendais le maire de la ville, Monsieur François Grosdidier, qui s'exprimait chez vos confrères de France Info, en disant que le département ne devrait pas être stigmatisé. Sauf que là, avec cette mesure, on va y arriver en fait, parce que le département de la Moselle, qui est quand même au bord de frontières, la frontière allemande, la frontière luxembourgeoise, qui laisse passer les gens de manière assez conséquente. Alors je vous donne un exemple. J'étais à Luxembourg pas plus tard qu'il y a deux jours, en plein centre-ville. Les gens n'avaient pas le masque en fait. Il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas le masque. Et ces gens-là, donc.
Mais c'est obligatoire à Luxembourg ?
À Luxembourg, c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Sauf que beaucoup de gens ne le respectent pas. Et ces gens-là, qui donc du coup se baladent dans les rues tranquillement, dans les commerces, dans les transports, vont contaminer d'autres personnes qui viennent dans notre département. Parce que du coup, nous, on a des frontaliers qui viennent, qui rentrent chez eux tous les soirs, et qui viennent à Metz, à Forbach, toutes les communes de la Moselle. Et du coup, on se retrouve avec ces cas-là. Et donc du coup, on a ces gens-là qui vont se mettre dans les transports et transmettre le virus ad vitam aeternam. Et c'est pareil dans les écoles. Dans les écoles, on a ce même problème. On a une augmentation significative du nombre du cas de Covid, même de variants, en tout cas dans certains établissements. Déjà du côté de Metz, il y a deux établissements qui ont dû
fermer. Donc ça vient du Luxembourg, c'est ce que vous voulez nous dire, William?
Alors le Luxembourg n'est pas, l'Allemagne elle est un peu plus confinée de manière stricte du côté du...
Mais elle ne respecte pas, les habitants du Luxembourg ne sont pas disciplinés. Alors je ne peux pas vérifier ce que vous nous dites, évidemment, c'est ça qui m'ennuie.
Je suis désolé, moi je vous donne le témoignage que moi j'ai vu, je me suis déplacé à Luxembourg, je suis resté 3 heures et j'ai vu ce qui se passait.
Donc les gens n'ont pas le masque, majoritairement?
Non, il y a quand même une majorité qui ont des masques, mais il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas.
D'accord. Alors qu'en France, les gens touchent le masque, c'est ça, ça me frappe. Moi, à Paris, en tout cas, tout le monde porte le masque. Parfois mal, mais tout le monde le porte.
Exactement. Mais en tout cas, ici, les gens ont l'air un peu plus précautionneux. Ils sont au courant du problème. Et ils en ont marre, en fait, du confinement. Ils en ont marre même du couvre-feu. Alors, dans un sens, on a le maire de Metz qui dit que le couvre-feu est inutile. C'est faux. Les chiffres ont montré qu'il y a eu une baisse du nombre de cas. Et c'est ce qu'on disait il y a quelques minutes. Il y a une baisse du nombre de cas en France et même en Moselle, même si, effectivement, on est dans une situation qui est relativement inquiétante. Mais ne serait-ce que de reconfiner, encore une fois, les populations, alors qu'on laisse tranquillement les gens dans les transports, dans les écoles, dans les centres commerciaux, pas dans les centres commerciaux, par exemple, des grandes surfaces le week-end. Comme les gens n'ont plus le temps d'aller faire les courses en semaine le soir, ils s'y rendent le samedi. Vous allez dans les grandes surfaces de Metz, que ce soit en haut centre et dans les alentours, c'est blindé. Donc, à partir de ce moment-là, là, on est aussi dans ce genre de foyer épidémiologique où les gens ne respectent pas forcément tous le port du masque à 100%, n'ont pas forcément tous les gestes barrières, mais ça en laisse. Et aussi, et ce que je vais souligner, parce que à Metz, j'habite à 200 mètres par mois de la place Saint-Louis, qui est une place principale où il y a énormément de bars. Il y a quelques bars qui, eux, ont décidé de faire, vous savez, pas une sorte de click and collect, mais en gros, ils laissent leurs portes ouvertes pour que les gens puissent venir consommer, et ils consomment sous les arcades de manière conséquentes. Ils sont pas 10, hein. Des fois, ça va jusqu'à 50, 60, des fois une centaine. Et ça, le maire de Metz n'agit pas. Donc, il veut un confinement parce que il y a une situation qui est délicate, mais dans sa propre ville, il ne fait pas respecter entièrement la loi, parce que le port du masque est inscrit dans la loi, et on laisse faire dans la plus grande impunité ce genre de comportement, et on permet aux gens, enfin, vous voyez, c'est un petit peu contradictoire. Et ça fait des mois que les Français sont face à ça. Ils sont face à des contradictions. Par exemple, je prends le cas le plus flagrant, c'était le masque. Sans critiquer le gouvernement, sans dire qu'il est nul ni quoi que ce soit, on va quand même rappeler qu'au tout début de l'épidémie du Covid, au mois de février et même en mars, on insistait sur le fait que le masque était inutile et qu'il devait seulement être réservé au personnel hospitalier et aux personnes contaminées. Et regardez maintenant le résultat. Donc là, en fait, on est face à des contradictions, on ne s'en sort plus. Et si on continue comme ça, la Moselle, qui elle, avec d'autres départements, sont vraiment stigmatisés. Et nous, on est quand même dans une région économiquement fragile.
Et dites donc, William, vous avez mangé du. On peut pas vous couper, vous, quand vous parlez. Hein.
Désolé,
vous ne vous arrêtez pas. Alors, c'est moi qui vous arrête. Et la pub, et vous revenez dans une seconde.
Pas de soucis.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Pardonnez-moi, William, je suis parfois brutal, mais il fallait que je vous coupe pas.
Il n'y a pas de problème.
Que je vous coupe. Et plus exactement. Donc, mot de conclusion. Finalement, on doit fermer des écoles selon vous un mois. On ne doit pas passer par le confinement total, mais on doit être plus dur. C'est ça votre pensée?
On doit vraiment montrer aux gens que la discipline est vraiment doit être le mot d'ordre en fait dans cette situation. En fait, si vous voulez, par moment, on est un petit peu paternalisé, on est un petit peu aussi mis à défaut par nos politiques. Mais eux, par exemple, le maire de Metz, sans être contre lui, a des propos contradictoires autour.
Oui, non, mais ça j'ai bien compris, mais je voulais la synthèse.
La synthèse, alors, évitons un reconfinement total.
D'accord.
Respectons les gestes barrières, faisons en sorte pour que les gens aient envie de le faire et évitons les situations de contradiction, par exemple avec les transports, les commerces et les écoles qui deviennent problématiques. Et si on n'agit pas sur ces foyers-là, effectivement, on va droit au confinement.
Eh bien, merci beaucoup, William. Alors, on a terminé sur ce sujet de la Moselle et du confinement. Et on va donc aborder, et c'est la première fois qu'on l'aborde de cette manière-là dans les auditeurs, et je trouve que c'est intéressant, la politique. Hier soir, belle affiche, Darmanin, Marine Le Pen, les 25-49 ne regardent pas. La part de marché était très faible, entre 3 et 4% sur cette catégorie-là. Et au contraire, Mélenchon, chez Cyril Hanouna, dans une émission qui s'appelle Balance ton poste, il y a eu le double, 8 ou 9% de pénétration, ce qui est un beau score pour C8. Donc, est-ce que les plus jeunes se désintéressent des émissions traditionnelles politiques et préfèrent écouter Jean-Luc Mélenchon sur C8? Et c'est pourquoi d'ailleurs le leader de la France Insoumise y est sans doute allé, parce qu'il touche un autre public. Voilà, j'ai présenté les choses. Maintenant, c'est à David, justement, qui a 19 ans, qui est étudiant, de nous donner son avis. Bonjour.
Bonjour Pascal, je suis ravi d'être avec vous. Alors,
pareil.
Comment vous dire? Alors hier c'était le grand choix hein, pour beaucoup de monde, hein, France 2, Darmanin, Marine Le Pen, ou alors d'aller voir Jean-Luc Mélenchon avec Cyril Hanouna. Bah écoutez, pour ma part je pense que l'émission de Cyril Hanouna est quand même à la base beaucoup plus divertissante et a une portée bien plus amusante et reposante qu'une émission plus politique, un peu plus traditionnelle comme celle qu'on a eue sur France 2 hier. Donc ça m'étonne pas vraiment qu'aujourd'hui il y ait eu ce tel écart d'Audima sur Balance ton poste, sachant que c'est quand même une émission qui fait beaucoup parler, il y a souvent des clashs et les gens viennent aussi pour ça. Disons que c'est une émission moins idéologique, moins portée sur la réflexion, sur le débat, et plus portée sur le clash, l'affrontement. Et pour le coup, c'est à ça que Jean-Luc Mélenchon est aussi très fort. Hein. C'est pour le coup.
Oui, mais il va chercher à toucher un public différent. Ce public, si effectivement les hommes politiques, si les émissions traditionnelles, les jeunes ne les regardent pas, faut aller au contact des jeunes.
Et c'est là aussi où Jean-Luc Mélenchon est très fort. Hein. Il base beaucoup de sa communication sur le contact avec les jeunes. On l'avait vu à la campagne avec l'hologramme. Aussi, il s'était fait une chaîne Twitch, vous savez, les plateformes de streaming en direct. Et en vérité, il n'y a que des jeunes là-dessus. Et là encore, en allant chez Balance ton poste, on voit bien qu'il a une volonté de se montrer auprès d'un public beaucoup plus jeune. Donc le choix ici...
Bon, vous avez regardé quoi hier soir? Vous avez regardé les deux? Vous avez zappé?
Ouais, j'ai zappé un petit peu entre les deux. Quand on s'ennuyait d'un côté, j'allais de l'autre.
Mais ouais, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait ça. C'est rigolo d'ailleurs.
Ouais, je crois.
Parce que j'ai fait comme vous, pour tout vous dire.
Ah oui?
Bah oui, je regardais effectivement les deux et quand j'avais le sentiment qu'il y avait un petit temps faible, j'allais en face.
Mais j'ai quand même passé plus de temps chez Hanouna. Hein.
Bon, Robin est là également. Robin qui habite dans l'Oise et qui a regardé visiblement les deux hier soir. Donnez-nous votre avis, Robin, bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Pro. Donc oui, j'ai regardé les deux, majoritairement un peu comme donc votre précédent
David.
Intervenant, comme David exactement. J'ai plus regardé Hanouna que la 2. Mais je suis pas tout à fait d'accord par contre avec David, dans le sens où je trouve que sur le plateau d'Hanouna, après c'est qu'un choix personnel, mais je trouve que le plateau est tellement plus différent en termes d'intervenants. On a des personnes qui sont un peu plus au contact, donc on va dire le commun des mortels, que le débat est quand même présent. Certes, c'est pas un débat classique qu'on a pu regarder sur France 2, mais où on a plus l'impression que c'est un combat de coq et un combat d'orateur entre Marine Le Pen et Monsieur Darmanin. Et malgré le fait que, par exemple, je ne partage pas du tout les convictions de Monsieur Mélenchon, mais j'ai trouvé plus intéressant de regarder un débat avec des gens comme Karim Zerbi et d'autres intervenants qui ont cherché à titiller quand même un petit peu, peut-être pas avec des questions ciblées comme ce que peut faire un journaliste vraiment spécialisé en politique, mais a vraiment permis de à mes yeux d'avoir un échange, peut-être de temps en temps pas très construit avec un peu de brouhaha, mais beaucoup plus abordable et beaucoup plus intéressant d'un point de vue, en tout cas d'un point de vue d'un jeune qui
d'un point de vue spectaculaire, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce que ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le journaliste est souvent prisonnier d'une certaine courtoisie, d'une certaine éducation. Exactement. D'un certain comportement, j'ai envie de dire, alors que le chroniqueur ou vous parlez de Karim Zeribi, il a plus de liberté dans sa parole, et il peut aller peut-être le titiller, s'opposer à lui, pourquoi pas, d'une manière différente du journaliste. Et il est possible que cette manière d'interroger les hommes politiques, traditionnellement avec un journaliste, il est possible qu'aujourd'hui ce soit moins percutant ou moins intéressant pour le téléspectateur. C'est intéressant, intéressant, vraiment, Robin, ce que vous dites.
Je suis d'accord avec Robin aussi, hein, d'ailleurs.
Ouais, David est d'accord avec vous, manifestement.
Oui, je suis d'accord, ouais, parce que c'est vrai que des intervenants comme Karim Zeribi, Raquel Garrido, c'est quand même des personnes qui sont plus proches de la classe moyenne et peut-être de la classe populaire. Donc c'est des intervenants qui touchent plus la majorité.
Plus proches que qui? Que les journalistes?
Plus proches que des journalistes politiques?
Non,
vraiment
que la classe moyenne, je crois même que ça pourrait même presque être le contraire d'ailleurs. Mais c'est le style d'interview qui est différent.
Exactement, je trouve que c'est le style qui est complètement différent, et je pense que en tant que jeune, j'ai que 25 ans, j'estime que j'ai besoin de me faire un avis sur la politique, etc. J'ai déjà des idées, déjà un courant auquel j'adhère, mais j'ai quand même besoin de me faire une idée concrète sur ce qu'est la politique, et je n'arrive pas à vraiment adhérer à ce combat de coq entre deux personnalités où c'est juste un duel de chevaliers où on cherche juste à trouver la fin dans un dialogue, alors qu'on n'est pas on ne cherche pas à échanger plus que ça, j'ai l'impression.
Bah, merci.
Je trouve que...
Oui, Robin.
Et je trouve que sur un échange type balance ton poste, un jeune a plus de facilité à se faire une opinion et les...
Bah en tout cas, ça peut être pour lui qui est habitué, alors sans rentrer et faire de la sociologie dans la société du divertissement, il est possible qu'il trouve les codes dans une émission celle-là qu'il ne retrouve pas dans une émission plus traditionnelle, plus classique, dans laquelle il peut peut-être s'ennuyer. Alors, en tout cas, il est 13h39, vous savez que c'est la Saint-Valentin dimanche. Alors Damien Béchiot est là, ce serait bien que chacun donne un peu les cadeaux qu'il va faire à son compagnon ou sa compagne d'ailleurs.
Mais Damien Béchiot est-il accompagné?
Ah ben ça, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais en tout cas,
vous Damien Béchiot est là.
Bonne question.
Oui, merci. Siradouche est au standard. Je précise que aujourd'hui Pierre-Louis est là également. J'ai vu Evan et Jules est là. Donc c'est à eux que vous allez donner vos cadeaux ou comment vous allez passer cette Saint-Valentin. On attend d'ailleurs des Valentins au standard. Et puis on attend également la playlist de Monsieur Caranoni.
Eh bien, écoutez, on va pouvoir écouter Elvis Presley. Vous aimez ? Vous voulez pas chanter un peu ? Pascal était debout dans le studio.
Je danse seul. C'est ma condition.
Un slow accompagné.
Ça, c'est bien pour une petite ambiance dimanche matin, par exemple. Dans la chambre, un petit Elvis, au moment où votre compagne ou vos compagnons se réveillent, et vous lui susurrez à l'oreille Elvis Presley. Vous voudrez connaître George Lang quand même avant la fin de l'émission ? Qu'on l'appelle, qu'il nous dise, ben voilà, pour quelle est la meilleure chanson pour passer la Saint-Valentin, et puis qu'il nous annonce ce qu'il fera dimanche. D'ailleurs, le vendredi, c'est toujours un peu freelance. L'ami Caranoni, il passe également pour nous donner le menu.
Là, vous voulez parler de Cyprien Cini ?
J'ai dit qui ?
L'ami Caranoni.
Ah oui, effectivement.
Bon, je suis dans votre cœur, hein, ça.
C'est vrai. Cyprien Cini, est-ce qu'il est là ? C'était très bien sa chronique ce matin. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Et je crois qu'Olivier Véran est en train d'arriver en Moselle à l'instant même, à 13h43, le ministre de la Santé qui va faire le point. Et on attend peut-être des décisions fortes et pourquoi pas un reconfinement local, Laurent Tessier.
Nous le répétons depuis le début de l'émission dimanche, c'est la Saint-Valentin. Et le programme est assez rapide en période de couvre-feu, de fermeture des restaurants. Tiens, Damien a réservé une table pour deux, je dois aller la chercher demain dans un magasin suédois. Très bonne vanne. Oui, avec son amant, c'est encore mieux, nous dit Badôme. Pour Rose, la Saint-Valentin, c'est tous les jours. Le jour de ma fête, mon pari me prépare un chemin de pétales de rose. Et quelle est pour vous aussi la plus belle chanson d'amour ? L'amour au temps du Covid, c'est encore plus compliqué. On dénombre, écoutez bien, 18 millions de célibataires en France. Comme notre community manager Pierre-Louis, alors appelez-nous si vous souhaitez le rencontrer. Masqué, évidemment. Je vais passer des petites annonces au passage dans l'émission.
Il y a 18 millions de célibataires en France. Bonjour Marine.
Oui.
Vous êtes étudiante en droit ?
Oui, c'est ça.
Et on va terminer sur le chapitre politique. Est-ce que vous, par exemple, vous regardez plus facilement les hommes politiques dans des émissions de divertissement type Cyril Hanouna, ou est-ce que vous êtes attaché aux émissions traditionnelles ?
Bah, disons que ça dépend de la période, parce qu'en période présidentielle ou même au moment des régionales, j'aime bien voir les débats traditionnels. Mais en période creuse, si je peux me permettre du terme, comme actuellement, j'aime bien regarder les émissions un petit peu originales, comme notamment Quotidien. Je sais que vous avez parlé de Cyril Hanouna, mais je trouve que des fois, il y a aussi de très bonnes interventions sur TMC. Je pense que les jeunes, en général, ont des fois tendance à ce que le débat ne soit pas comme un combat de coq. On a plus besoin d'avoir des idées plutôt que de la rhétorique et des choses qui sont parfois emballées. Et puis je pense, comme les auditeurs précédents, que la jeunesse a besoin d'avoir des auditeurs qui ont tendance un petit peu à... Enfin, des intervenants sur le plateau qui ont tendance à titiller les hommes politiques pour qu'ils puissent aller au bout de leurs réponses. Et je pense que c'est justement pour ça que les émissions comme celle de Cyril Hanouna ont peut-être un petit peu plus de popularité que les débats traditionnels qui ont tendance à être un petit peu plus... lisse, si je peux me permettre.
Lisse et peut-être ennuyeux. Moi, je me souviens, par exemple, sur M6, Karine Le Marchand avait fait une série de portraits des candidats ou des hommes politiques à la présidentielle. Et c'est vrai qu'on pénétrait dans l'intimité, que Karine Le Marchand posait des questions que les journalistes classiques ne posent pas. On pourrait en parler, d'ailleurs, pour plein de raisons, mais c'est vrai qu'ils parlent pas d'intimité, forcément. Il y avait une couleur, il y avait un climat, il y avait une façon. D'abord, il y avait l'intervieweuse, et ce n'est pas rien, parce que ça compte dans une interview. Karine Le Marchand, elle est très belle. Elle pouvait parler à un homme d'une manière sans doute différente de ce que proposerait par exemple une interview d'Alain Duhamel. C'est pas la même chose, disons-le. Donc ça donnait un échange qui pouvait surprendre. On n'est pas toujours surpris dans une émission traditionnelle. Et dans ces émissions-là, on peut l'être, Marine.
Oui, effectivement. Et je pense que il y a des nouveaux moyens de communication aussi qui font que les jeunes, des fois, sont un petit peu plus adeptes de certaines émissions plutôt que d'autres. Je sais que Balance ton poste, c'est une émission qui est énormément commentée sur Twitter. Donc je pense que c'est peut-être aussi pour ça que les jeunes y sont attachés.
Bah merci vraiment, Marine. Vous avez 22 ans, vous êtes étudiante en droit. Qu'est-ce que vous aimeriez faire ?
Juriste en droit social.
Et bah, c'est très très précis, Marine. Et vous êtes en ce moment en distanciel ?
Oui, tout à fait, distanciel depuis les vacances de la Toussaint.
Et vous êtes où ?
Sur Paris.
Et vous êtes, comment dire, vous êtes un peu en ce moment, non pas triste, mais en difficulté, ou vous avez le moral dans les chaussettes, ou malgré tout plus, ça va ?
C'est plus une lassitude qui s'installe au fur et à mesure, mais sinon on essaie de tenir le cap et on a mis en place des groupes de travail pour essayer de soutenir les uns les autres. Donc on garde quand même le cap.
Mais quand vous êtes à Paris, vous êtes chez vos parents ou vous étiez venu de province pour prendre ou une chambre ou un foyer à Paris ?
Non, j'habite en région parisienne, donc je suis dans le foyer familial.
Donc là, c'est peut-être plus facile que lorsqu'on est seul. Mais merci beaucoup Marine de ce témoignage. Et vous allez célébrer la Saint-Valentin, Marine ?
Non.
Pas de Saint-Valentin cette année, vous n'aimez pas ?
Bah, j'ai personne avec qui la fêter, donc voilà.
Bah oui, vous faites partie des 18 millions de célibataires ?
Exactement.
Mais vous avez entendu la petite annonce tout à l'heure de l'ami Laurent Tessier, il y a Pierre-Louis qui est tout seul.
Oui, j'ai entendu.
Ah, il est sympathique, Pierre-Louis.
Oui.
Il travaille avec nous. Bon, merci beaucoup, Marine.
Au revoir, bonne journée.
Bonne journée, 13h48. On pourrait faire une émission où on mettrait les uns et les autres en rapport de temps en temps. C'est vrai, Marine, si elle a pas...
Si ça marche aussi bien que pour Pierre-Louis, on est mal barré. Hein.
C'est-à-dire ?
Marine n'avait pas l'air très OP.
Parce qu'elle connaît pas Pierre-Louis.
Certainement, absolument.
Et puis elle a peut-être pas, elle a peut-être pas envie d'un garçon jeune. J'en sais rien, moi. Puis à quel âge il a Pierre-Louis ?
J'ai 27 ans, Pascal.
Bon. 13h49, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Nous ouvrons donc le chapitre Saint-Valentin puisque c'est dimanche et figurez-vous que nous sommes avec Monique. Bonjour Monique.
Pascal, bonjour.
Et merci d'être avec nous Monique.
Ça fait des années que je veux vous appeler le jour de Saint-Valentin.
Parce que vous souhaitez...
Parce que je souhaite, enfin je voulais dire que je me suis mariée le 14 février 1952. À la mairie du 12e, comme Yves Montand. Et alors, je voulais dire que on ne parlait pas d'un Saint-Valentin. En plus, ce jour-là, c'était un jeudi. En jeudi, il n'y avait pas de fleuriste. En plus, ce jeudi-là, vous pouvez regarder la météo ancienne, il y avait 15 cm de neige sur Paris.
Ah oui, effectivement, mais...
J'arrivais de ma Normandie avec des petites chaussures en vernis et des lanières. J'ai eu très froid.
Parce que vous n'aviez pas dormi à Paris le soir de votre mariage.
Il n'y avait pas de quoi ?
Vous n'aviez pas dormi à Paris la veille de votre mariage.
Depuis quelques jours déjà.
D'accord. C'est peut-être indélicat de vous demander cela, mais donc ça fait 70 ans. Ça s'est passé il y a 70 ans et vous êtes toujours mariée, Monique ?
Non, alors 60 ans de mariage.
Bah, 1952.
Voilà, 60 ans de mariage, très bien. Il n'y a rien à dire, 2 enfants, 3 petits-enfants. Hélas, mes 3 petits-enfants maintenant sont partis. Il y en a un au Japon, il y en a une au Canada, il y en a un en Allemagne. Mais enfin, on s'était revus le Noël précédent.
Mais j'entends bien, mais 1952, ça fait 70 ans.
Oui.
Donc vous dites 60 ans de mariage, 70 ans ?
Oui, parce que mon mari est décédé depuis 10 ans.
D'accord, c'était cela le sens de ma question et je trouve effectivement c'était indélicat sans doute de vous poser cette...
Et moi j'ai 89 ans maintenant alors je m'exprime assez mal.
Non, vous vous exprimez très bien Monique, vraiment très bien. Donc pour vous cette journée de Saint-Valentin c'est évidemment une journée un peu mélancolique et nostalgique.
Pas du tout, moi ça a été une journée d'amour à l'époque. Et maintenant, je me dis, je ne veux plus entendre ces gens qui disent « j'en ai marre ». Mon Dieu, j'en ai marre de quoi? Là, ils cherchent des restaurants, ils cherchent des cadeaux, les chocolats Jeff de Bruges que je vois à la télé. Moi, j'ai même pas eu un chocolat ni une fleur pour mon mariage. Pas une fleur. Le jeudi, il n'y avait pas de fleurs à Paris. Les boutiques étaient fermées le jeudi. On sortait de la guerre quand même, hein.
Bah, c'est vrai que là, ça peut ressembler parce qu'il n'y aura pas de restaurant dimanche, Monique. Donc, qu'est-ce que vous allez faire ce dimanche, Monique?
J'ai ma fille, j'ai la chance qu'elle habite dans mon village, là. Je serai avec ma fille et en pensée avec tous les petits-enfants, etc.
Bon, bah, merci beaucoup de nous avoir passé un petit coup de fil, Monique. Vous habitez où?
Je veux surtout dire aux gens, mais réjouissez-vous de ce que vous avez, ne vous plaignez pas, je vous en supplie.
Ben c'est un bon message, effectivement, et c'est un message d'une dame qui a forcément vécu. Monique, vous habitez où?
Près de Versailles.
Bon, ben on vous embrasse.
Moi je vous embrasse aussi, je vous écoute tous les jours.
Ben écoutez, appelez-nous de temps en temps, c'est la première fois que vous nous appeliez?
Ça fait 5 ans de suite que j'essaye de vous parler de Saint-Valentin.
Et vous y arriviez pas? Bon, ben là, vous y êtes arrivé. Et appelez-nous de toute façon pour nous donner de vos nouvelles.
Voilà, merci. J'espère que ça durera encore longtemps.
Eh ben, j'ai exactement. Moi aussi, j'espère que ça durera longtemps. Merci beaucoup, Monique.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Chadé, bien sûr.
Mais Chadé 84.
Exactement.
Bah, Chadé, ami. 84, formidable. Et ça c'est vraiment notre jeunesse pour le coup. Hein.
Votre jeunesse, oui.
Bah oui, Chadé, c'était quand même bien, non? Christophe est gérant d'un club libertin. Ah non, mais quelle horreur. Christophe, c'est pas du tout adapté à la Saint-Valentin, un club libertin.
Non, ça dépend.
C'est adapté à toute l'année, vous voulez dire?
Oh non, c'est pas l'endroit le plus romantique du monde, quand même. Là, c'est, on parle vraiment d'amour, on parle pas de sexe.
Mais il y a de l'amour aussi dans les clubs libertins.
Bah, je ne dis pas qu'il y a pas d'amour. Je dis que c'est un univers qui est peut-être moins propice au romantisme. Je ne sais pas, je ne connais pas, je parle par oui dire.
Oui, disons que quand nous étions ouverts, avant mars 2020, il y avait quand même des soirées à thème sympathiques pour la Saint-Valentin.
Bah écoutez, franchement, Greg Caradoni, vous emmèneriez votre épouse dans un pour fêter la Saint-Valentin dans un club libertin?
Je ne sais pas. Même pour ne pas la fêter d'ailleurs.
Je ne sais pas si vous feriez bien recevoir. Si moi je dis à mon amoureuse que je l'emmène dans un club libertin, je suis pas certain qu'elle va apprécier le cadeau. Christophe.
Et pourtant, si, c'est une période où justement, là, à la Saint-Valentin, il y a
des gens venaient avec.
Même des novices.
Des novices
qui n'étaient pas du tout habitués à fréquenter ce genre d'établissement, mais pour la Saint-Valentin, ils disaient ah ben tiens, alors effectivement, c'est peut-être hors sujet, mais pour certains, non.
Bah oui, bien sûr, mais bon, ça peut. Alors, ça peut être à double.
Tranchant.
À double tranchant, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer après.
Ah ben, il peut se passer plein de choses, mais bon, c'est une thématique de soirée avec des belles couleurs, avec du rose, du rouge.
Je n'en doute pas, mais il faut peut-être prévenir sa compagne ou son compagnon précisément de l'endroit où on va.
Oui, traditionnellement,
je me risquerais plus à un petit dîner ou à souper aux chandelles.
Oui.
Le club?
Non, pas le club. Enfin, Greg Caradoni. Écoutez, franchement, ça, c'est minable. Mais, je vous jure, je ferai quand même très attention. Mais alors, il est où votre club libertin?
À côté de Toulouse, à Roxerie.
Et c'est fermé depuis un an?
Et oui, depuis mars 2020, en raison de Covid, de crise sanitaire, bien sûr.
Bon, et il n'y a pas de soirée privée, d'organiser, malgré tout?
Non, pas dans l'établissement, mais oui, malheureusement, on sait qu'il y a quelques soirées privées qui s'organisent ici et là, au travers de sites libertins, mais officiellement, non, il n'y a pas de soirée privée, et puis non, c'est pas bon du tout pour la clientèle.
C'est vrai que le geste barrière dans un club libertin, il est peu respecté, disons les choses.
C'est clair.
Bon bah écoutez, et comment ça se passe? Parce que on blague un peu, mais j'imagine que sur le plan économique, c'est pour vous c'est extrêmement handicapant.
C'est très compliqué, mais contrairement à ce qu'on peut imaginer, moi je faut saluer quand même les aides de l'État qui sont là et ça a été dur, mais pour le moment ça permet d'attendre l'ouverture, j'espère prochaine, pas encore, mais bon. C'est compliqué, mais je suis assez impressionné, même honnêtement, avec plusieurs professionnels, on se demande, la planche à billets fonctionne bien, c'est à croire, mais les aides sont là et ça permet de tenir, je dirais pas à flot, mais de survivre, quoi.
Ben merci Christophe, merci beaucoup. Olivier Bois est en train d'entrer pour le flash. J'avais demandé à l'ami Cyprien Sini qui vient traditionnellement nous donner le menu de On défait le monde. Je ne sais pas s'il est dans la maison aujourd'hui.
Il y aura un invité exceptionnel tout au long de l'émission, je peux déjà vous dire.
Non.
Ceci absolument.
Et ce soir.
Ce soir.
Et on a le droit de dire qui est-ce?
On peut. Maxime Sorel, qui a fait le Vendée Globe.
13h59.
J'aurais une petite chanson pour Olivier Bois.
Ah oui, bien sûr. C'est I Want Your Sex?
C'est sa chanson préférée.
I Want Your Flash. Non, bah ouais, il voudrait le flash parce que si vous faites vos annonces à l'antenne. 13h59, à tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Pro sur RTL.
Il est 14h. On continuera de parler de la Saint-Valentin, mais d'abord le rappel des titres, peut-être Olivier Bois.
Olivier Véran, le ministre de la Santé, est arrivé à Metz. 300 cas de variants sud-africains et amazoniens ont été détectés ces derniers jours en Moselle. Invité du journal de midi et demi tout à l'heure, le président du Conseil général affirme qu'il n'est pas exclu, par exemple, que les écoles soient fermées dès la semaine prochaine ou que le couvre-feu soit avancé dans le département durant le week-end. Le maire de la communauté urbaine de Dunkerque, lui aussi, s'inquiète de la présence accrue du variant anglais pour le coup et demande aussi de fermer les écoles et les lycées dès la semaine prochaine. Une semaine avant les vacances scolaires. Le vaccin AstraZeneca sous surveillance. Des soignants à Brest et à Morlaix en Bretagne ont eu de la fièvre au lendemain de la piqûre. Il y a eu beaucoup d'arrêts maladie. Les hôpitaux vont donc désormais échelonner les vaccinations pour éviter un trop grand nombre d'arrêts en même temps. Ce genre d'effet secondaire était attendu et ne remet pas en cause le recours à ce vaccin AstraZeneca. En sport, l'Open d'Australie de tennis désormais à huis clos. La Française Fiona Ferro a perdu. Mladenovic est donc désormais la dernière tricolore encore en lice. Dominique Thiem, lui, vient de battre Nick Kyrgios. En rugby, la France affronte l'Irlande dimanche, deuxième match du tournoi des Six Nations. Damien Penaud et Anthony Jelonche seront titulaires. La météo, l'alerte rouge verglas est levée dans l'Indre, la Vienne et les Deux-Sèvres. La vigilance reste de mise parce que les routes peuvent tout de même rester glissantes. Demain, toujours du soleil et un grand froid. Moins 7 demain matin à Strasbourg, moins 5 à Lille, moins 4 à Paris. Ce sera plus doux toujours dans le sud, entre 8 et 11 degrés. Le quintet à Cagnes-sur-Mer pour terminer l'arrivée provisoire. 12, 15, 11, 4 et 14.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
L'amour, quand on parle toujours.
Mouloudji, l'amour, l'amour, l'amour.
À l'amour, c'est un printemps craintif.
Alors, ça, Mouloudji, je peux vous dire que.
Une lumière attendrie.
Il parlait comme ça. Il n'y a plus d'amour.
À l'amour.
Mouloudji, formidable.
À l'amour. C'est le poivre du temps.
Alors, Laurent, puisqu'on parle de la Saint-Valentin, Laurent qui a 27 ans, qui est paysagiste, qu'est-ce que vous allez faire pour la Saint-Valentin dimanche? Bonjour.
Bonjour Pascal. Déjà, je suis très content de vous avoir parce que je travaille d'habitude le midi en vous écoutant et là, je peux vous téléphoner, donc c'est avec plaisir que je vous appelle.
Et pourquoi vous ne travaillez pas aujourd'hui?
Oh bah, le temps dans les Yvelines, on peut pas avec le gel et les températures.
Ah ouais, les paysagistes ne peuvent pas sortir.
Là, on est en intempérie depuis 3 jours.
Ouais.
Donc, j'écoutais encore ce midi et le sujet m'intéressait, donc c'est pour ça que je vous ai appelé, j'en ai profité.
Ben, vous avez bien fait.
Donc voilà. Bah dimanche, nous, c'est ce qu'on disait avec ma compagne, là, ça fait 2 ans que je suis avec elle. D'habitude, bah, on va au restaurant, donc cette année, ça va, le programme va être changé. Mais on va quand même marquer le coup avec un repas qui sort de l'ordinaire, mais c'est sûr que ça sera pas comme les autres années, quoi.
Donc, vous allez rester à la maison, forcément, faire un petit dîner après 18h, mais est-ce que vous avez prévu un cadeau?
Oui, mais je vais pas vous le dire parce que elle est à côté de moi, donc c'est une surprise.
Et ce cadeau, il est déjà acheté?
Non, je vais y aller demain.
Ah. Et on peut avoir un indice? Est-ce que c'est quelque chose qu'on se met, peut-être, sur
soi? C'est ça. Donc et puis, un bouquet de fleurs aussi pour marquer le coup, comme, voilà, ça je peux le dire parce qu'elle le sait, voilà, mais, après, c'est toute l'année, hein, c'est ce que je disais au standardiste, c'est toute l'année quand même, pour moi, la Saint-Valentin, parce que il n'y a pas que le 14 février, hein.
Je suis d'accord avec vous. Depuis combien de temps vous êtes avec votre compagne?
Ça fait 2 ans.
Ça marche bien?
Ça va.
Vous vivez ensemble?
Je suis content. Oui, on vit ensemble. Oui.
Bon, entre le moment où vous vous êtes rencontrés et le moment où vous avez décidé de vivre ensemble, il s'est passé combien de temps?
Là, ça va faire 1 an, du coup.
Donc pendant 1 an, vous avez vécu chacun chez soi.
Voilà.
Et puis au bout 1 an, vous vous êtes dit, pourquoi pas essayer à deux?
On passe le pas, quoi.
On passe le pas. C'est la première fois que vous viviez avec quelqu'un en...
Oui, moi personnellement, oui.
Et elle?
Non, elle. C'était pas la première fois.
Bon, il y a des projets?
Ah bah oui, mais bon, après ça, par contre, on se laisse un peu de temps pour avoir un enfant et tout. C'est vrai qu'on en a pas de, on en a pas. Mais après ça, on n'est pas.
Bah, vous avez 27 ans. Et là, quel âge votre compagne?
Elle a 25.
Ouais, donc on est pile dans la moyenne.
Bon, après, je me dis qu'aux alentours des 30 ans, c'est bien, donc on n'est pas pressé.
Je crois que c'est 28-29 ans pour une femme, l'âge du premier enfant. Est-ce que vous imaginez vous marier?
Moi, personnellement, non, je suis pas trop pour le mariage.
Pourquoi? Pourquoi? Bah,
parce que autour de moi, rien que mes parents, ils sont divorcés déjà. Et je connais beaucoup de personnes, je connais plus de personnes qui divorcent que plus de personnes qui se marient, en fait.
Donc vous pensez que l'amour, sinon, dure 3 ans, comme disait Bec Bédé, mais en tout cas, il dure pas éternellement?
Non, je dirais, j'espère aller plus de 3 ans quand même, mais après, on verra on peut pas savoir ce que la vie nous réserve, mais après, c'est sûr que si on est bien comme ça, je trouve que c'est bien de rester comme ça. Pourquoi pas, peut-être fiançailles ou le Pax, voilà, suivant ce que la vie nous réserve aussi, mais...
Elle s'appelle comment, votre amie?
Tiffany.
Et elle aimerait se marier?
Ouais, on a déjà parlé, ouais.
Ouais, c'est ça. Et on a le sentiment que souvent, c'est toujours difficile de généraliser, mais on a le sentiment que souvent, ce sont les femmes qui ont envie de se marier plus souvent que les hommes. Alors, j'ai pas de statistiques, bien évidemment, et je vais peut-être me faire rattraper par la patrouille des féministes. Mais il me semble, à écouter les uns et les autres, que c'est souvent une tendance. Mais si elle vous demande de se marier, est-ce que vous direz oui? Est-ce que vous considérez que c'est une preuve d'amour?
Bah après oui, mais c'est vrai que ouais, je sais pas si elle me demande. Après je pense peut-être qu'un jour je ferai la demande, mais c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui.
Non mais si c'est elle qui demande, est-ce que vous accepterez, est-ce que vous direz tiens voilà, c'est pour ça serait c'est pour lui. J'aime pas le mot pour lui faire plaisir, je trouve que c'est pas adapté à l'amour.
Oui non, c'est pas
mais
c'est, pas un bon
c'est
mot,
pour
mais...
lui montrer voilà combien je l'aime et bien j'accède à sa demande.
Oui, peut-être, après, si l'occasion... Oui, je pense.
Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour.
C'est ça.
Non, mais c'est vrai. Si elle vous demande, Tiffany, et puis si elle vous demande, c'est qu'elle vous aime.
Non, mais oui, c'est vrai. Mais après, moi, je l'aime aussi, et je vous dis que je ne suis pas prêt à le faire, mais voilà, après, c'est des cas... oui, c'est compliqué.
J'adore Laurent. Après, vous êtes un garçon, enfants, Laurent, et Tiffany est une fille. C'est une des choses les plus essentielles que j'ai dit depuis quasiment 20 ans. Non, mais c'est vrai, c'est super ce que vous dites, c'est super en plus. Bah non, écoutez, mais... bonne Saint-Valentin.
Bah je vous remercie Pascal et continuez comme ça. Et
bah non, mais continuez-vous
bientôt.
Comme ça.
J'espère à bientôt.
Bah non, vraiment, embrassez c'est joli en plus, Tiffany.
Ouais, bah j'embrasserai, y a pas de souci.
Elle est à côté de vous?
Oui, elle vous écoute.
Comment c'est le film? C'est Breakfast for Tiffany avec Audrey Hepburn. C'est
elle,
Tiffany,
vous écoute,
d'ailleurs.
Elle vous écoute à la radio de l'autre côté.
C'est vrai?
Oui, bon, oui.
Bah écoutez, je vraiment, elle a un mari, quoi, un mari, un compagnon sympathique et on voit agréable et gentil.
Et bah, ça, je vous remercie, Pascal.
Et ça s'entend. Et c'est finalement le plus important. Une des choses essentielles, c'est d'être gentil avec la femme qu'on aime.
Bah, c'est ça, que tout se passe bien. Moi, je trouve que c'est principal.
C'est d'être gentil. Moi, j'ai une passion pour les gens gentils. Grégory, vous êtes gentil avec votre épouse, j'espère.
J'espère aussi, j'espère. Bon.
Par exemple, moi, tous les matins, j'apporte le café à ma fiancée dans le lit. Elle n'a plus qu'à le moudre.
Ah, mais c'est pas vrai, quel goujat.
Je crois que c'était Pierre Doris qui disait ça. Pierre Doris, il est souvent cité aux grosses têtes et il dit des choses horribles sur sa femme. Il dit, ma femme, elle est comme ça. C'était horrible. 14h09,
c'était
une petite
bien
chanson.
Breakfast at Tiffany's en 1960.
Comment ça s'appelle?
Breakfast at Tiffany's.
Voilà, c'est un film avec Audrey Hepburn.
1961. Et alors, tous les auditeurs qui passent sur l'antenne aujourd'hui ont un cadeau, écoutez Isabelle.
Aujourd'hui sur RTL, à l'occasion de la Saint-Valentin, tous les auditeurs qui passent à l'antenne remportent un assortiment de chocolat Jeff de Bruges, dont les éditions limitées spéciales Saint-Valentin, ainsi qu'un ballotin de leurs meilleures recettes chocolatées. L is for the way you look at me. O
is for the only one I see. C'est bien ça, Diana Krall. Hein. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore and love. It is all that I can give to you. Formidable. George Lang après la pub. A tout de suite.
Auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Saturday Night Fever. Je pense que nous sommes en 1977. C'est les Bee Gees, évidemment. George Lang est avec nous.
Oui,
je le salue. Je me demande, les trois Bee Gees sont morts ou oui, je crois que...
Non, il y a un survivant.
Oui, c'est
Barry,
ce qui me
semble. Barry Gibb, ouais. Qui était le plus grand, qui ouais. N'était pas le jumeau, parce qu'il y avait deux jumeaux dans le groupe, dans le trio, mais les autres sont décédés. Et Barry est là, il vient d'enregistrer d'ailleurs un superbe album, avec notamment un duo en compagnie de Dolly Parton, qu'on a beaucoup passé la nuit sur RTL et qu'on passe toujours. C'est récent, hein, c'est sorti il y a 15 jours. C'est la chanson Word des Bee Gees.
Qu'est-ce que vous nous conseillez à écouter, George Lang? Quelle est la meilleure chanson s'il n'en fallait retenir qu'une pour créer une atmosphère?
C'est la question qu'il ne faut pas poser, puisque moi j'en ai sorti 18 pour dimanche soir.
Ah oui.
Entre 23h et minuit, ça va être un tapis musical avec des chœurs qui vont partir de l'émetteur. On va voir que ça dans le ciel de France et d'ailleurs. Moi, ce que je propose comme unique chanson, c'est Only You, des Platters. Only You, sous-titré And You Alone. Ça, c'est une chanson formidable. Mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, mon programme, il commence avec My Valentine, Ma Valentine, de Paul McCartney. Ensuite, il y a Joe Cocker, You Are So Beautiful. Elvis, que vous avez passé tout à l'heure. Et puis les Writers Brothers avec Unchained Melody. Paul Anka, Crazy Love. Etta James, At Last. Diana Ross et Marvin Gaye, You Are Everything. Phil Collins, A Groovy Kind of Love. Et surtout Percy Sledge avec When a Man Loves a Woman. Il y en aura d'autres.
Il
hein.
n'y a pas un titre français?
Non, parce que c'est pas dans la tradition de passer du français dans les chansons, dans les collections entre 23h et minuit, mais c'est notre ligne éditoriale. Mais des français, il y en a des tonnes, des qui ont chanté l'amour. Tout à l'heure, j'entendais Lisa Direco, Parlez-moi d'amour. C'était formidable, ça. Mais bon, le principe de la collection, c'est quand même
le
best of des chansons anglo-saxonnes.
C'est
voilà.
Vrai, vous avez raison. Bon, bah, George. Ça, c'est du tube de chez tube.
Il est quand même formidable, Greg Carannoni.
Ah, mais c'est un génie.
C'est un génie. J'aimerais bien travailler avec lui, mais il ne veut pas venir travailler la nuit, il m'a dit. C'est trop tard.
Merci.
Pour ta vie familiale.
Merci, Georges. C'est toujours formidable. Et puis, vous êtes tellement.
C'est toujours formidable de vous écouter, mon cher Pascal.
Non, mais vous êtes tellement dans nos mémoires, parce qu'on a tellement écouté la nuit quand on était étudiant, ou quand on revient la nuit, surtout en voiture. Vous êtes tellement écouté.
Vous pouvez continuer à le faire, d'ailleurs.
Mais bien sûr. Alors, c'est vrai que je me couche plus tôt en ce moment. Mais et la nuit quand on revenait des matchs de football, notamment le nombre de fois où j'ai passé des soirées avec vous, des nuits à
Tottenham. Et je ne le savais pas en plus.
Mais oui. Et alors, moi, je parle très souvent avec un de vos plus grands fans, c'est Philippe Labraud, qui vous adore. Oui. Il y a une statue Georges Lang chez Philippe Labraud.
Philippe, je le reçois vendredi. On va enregistrer l'émission des Nocturnes. Il sera mon invité. On va la diffuser très bientôt. J'adore Philippe. J'adore cette façon qu'il a de raconter. Parce que lui, c'est un vrai storyteller. Ça, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Quand on l'écoute, on n'a pas envie que ça s'arrête. Et sa programmation, je l'ai. Et il me l'a envoyée. Elle est exceptionnelle.
Merci, Georges Lang. 14h15 sur RTL. We didn't care. She said that someday soon the sun was gonna shine. Ça c'est My Valentine de Paul McCartney. This love of mine. Alors nous sommes avec Daniel, tiens, qui est marié depuis un moment déjà. Bonjour Daniel.
Bonjour Pascal. Je suis ravi de vous avoir au téléphone. Que je vous écoute assez régulièrement tous les jours, dès que je le peux. Mmh. Et vraiment, j'apprécie votre émission, vos remarques.
Bon, ben vous êtes gentil. Hier, il y avait quelqu'un qui disait que je l'énervais.
Non. Vous dites beaucoup de choses vraies par rapport notamment à cette crise sanitaire. Mais c'est sympa.
Vous êtes sympa, Daniel. Vous êtes marié depuis combien de temps? 37 ans?
37 ans de mariage.
Oui.
Je suis marié avec Claire. Mmh. Et
c'est l'amour?
Ah, c'est l'amour, bien sûr.
Il n'y a pas eu, en 37 ans, parce qu'on se parle, évidemment, franchement, il n'y a pas eu de baisse d'intensité, de coup de mou, de départ, de retour?
Ah non, surtout pas. Attendez, la vie de famille, c'est ça, c'est d'être fidèle, déjà d'une, moi je suis fidèle. Mmh. Et ben, vous savez, il y a bien des disputes de temps en temps, mais ça c'est normal. Mais comme je dis toujours à ma femme, t'inquiète pas, ça se remettra sur l'oreiller, voilà.
Ah oui, si effectivement, je vois que vous savez parler aux femmes, vous êtes un peu à l'ancienne,
bien sûr,
Daniel.
Non, on est en plus, en
viril
plus,
mais correct.
En plus, j'ai une jolie femme. Hein. Mais je voudrais, si vous me permettez, je voudrais faire une bise à Monique, l'auditrice que vous avez vue tout à l'heure.
Oui, qui a 89 ans.
Elle représente très bien les valeurs de la famille. Et ça, je trouve ça super. Mmh.
Qu'est-ce que vous offrez dimanche à votre épouse?
Alors, à la Saint-Valentin, je n'ai jamais rien offert à mon épouse. C'était le but de mon appel, parce que je suis né le 14 février. Voilà.
Non!
Alors, oui, alors j'avais toujours dit à ma femme, j'avais dit, écoute, à la Saint-Valentin, ce sera à toi de m'offrir quelque chose. Moi, je ne t'offre rien. Voilà. Et ça a toujours marché comme ça, mais à côté de ça, si vous voulez, je la gâte à côté, hein. Que ce soit Noël, l'anniversaire, la fête, bien sûr.
Hein, une femme, non, c'est drôle.
Je lui offre souvent des fleurs. Je fais le marché de Dieppe tous les samedis matins.
Quel est le dernier cadeau que vous ayez offert?
Un bouquet de fleurs, là, il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines. Un beau bouquet de fleurs. Un beau bouquet de fleurs. Mais sinon, je vous dis, ma femme, je la gâte parce que je l'aime beaucoup. D'ailleurs, je ne l'aime même plus, je l'adore. Je dis toujours, je ne t'aime pas, je t'adore.
Parce que je l'aime beaucoup, c'est pas adapté non plus à l'amour.
Non.
J'ai l'impression qu'on aime beaucoup le chocolat, mais c'est je l'aime. En fait, où je l'adore, mais c'est bon, voilà, c'est tellement, c'est difficile. Savez, l'impermanence des sentiments peut de temps en temps exister dans une relation. Oui. C'est-à-dire que parfois il y a des hauts, il y a des bas, et on peut être même triste soi-même
normal.
Lorsque l'intensité est moins forte.
Oui, mais non, nous, il n'y a jamais eu de baisse d'intensité. Vous savez, nous, ça a toujours été
au top.
On a toujours été proches l'un de l'autre. Voilà, on a une carrière professionnelle bien remplie, donc il fallait s'aider. Claire a été commerçante pendant 26 ans. Je vais vous dire, elle rentrait tous les soirs parce que elle partait de bonne heure le matin. Elle avait une boutique à son compte. Elle rentrait tard le soir. À chaque fois qu'elle rentrait, le repas était toujours prêt. Les filles étaient prêtes à aller se coucher. Enfin, vraiment, tout était fait. Et je trouve ça normal. De toute façon, c'est ça. L'amour, c'est ça. De toute façon, l'amour.
Qu'est-ce qui est normal de, que vous ayez fait le repas, c'est ça?
De l'avoir aidé toutes ces années.
C'est ça, de l'avoir aidé, bien sûr.
Bien sûr.
Vous avez eu combien de filles?
2 filles, Valentine et Marie.
Valentine, oui, bien sûr. Elle l'avait de tout petit peloton. Valentine.
Elles sont mariées et nous ont donné de beaux petits enfants. C'est top.
Bon, donc il y a une tradition d'amour chez vous où finalement les couples durent.
Exactement. Et dimanche, c'est moi qui prépare le repas en plus.
Bon, bah écoutez, c'est bien, Daniel. Merci. Il y a une chanson, moi, que j'aime bien, c'est « J'ai encore rêvé d'elle », qui est formidable.
Ça, on se rappelle.
Ah, ça, c'est Maurice Chevalier.
Oui,
ça, c'est pas ça, c'est, alors, je vous laisse écouter, parce que c'est Valentine, elle avait de tout petits petons.
Un jour, il avait plus.
C'est le refrain.
On s'était plu, et puis on se plut de plus en plus. Je lui demandais son
alors, on va
nom,
peut-être pas attendre le refrain. Maurice Chevalier.
Jour, la rue.
On a fait Maurice Chevalier et Mouloudji, vous vous rendez compte?
C'est bête, elle n'a rien fait pour ça.
On va avoir une surprise pour Evelyne parce que Evelyne cherche un homme sympathique. Donc Evelyne est là. Vous êtes là, Evelyne?
Oui, bonjour Pascal.
Ça tombe bien parce qu'on va vous marier avec Pierre-Louis.
Ah!
Oui. Vous êtes tout à fait son genre. Il a 27 ans.
Je l'ai pas vu encore.
Non, mais c'est pas grave. Il a 27 ans, vous en avez 69. C'est un écart d'âge minimum. A tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RT. Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL.
Evelyne, bonjour.
Bonjour.
Vous habitez Perpignan.
Absolument.
Et vous souhaitez passer une annonce pour la Saint-Valentin.
Voilà. Ben moi déjà, j'aimerais bien qu'il y ait, non pas tous les ans la Saint-Valentin, parce que ça me met le moral à zéro, mais une fête pour les célibataires, pour ceux qui sont seuls. Moi, je suis contente que les gens soient heureux et tout, mais pour moi, c'est pas une fête...
Bah c'est ça, oui. Quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de fête pour les célibataires.
Ah non, mais ça serait bien qu'il y en ait au moins une par an, parce qu'il y a énormément de gens qui sont seuls.
Bah, 18
à Paris,
millions.
Vous êtes 3 millions au moins. Et sur la France entière, oui, c'est énorme. Mmh. On est de plus en plus seuls.
Mais comment alors, vous faites pour rencontrer
COVID,
des gens Comment vous faites, Evelyne? Vous êtes seule depuis combien de temps?
Oula, depuis plus de 15 ans. Hein.
Bon, et vous avez tenté de rencontrer des hommes?
Oula, je suis allée sur les sites connus, Mythic, Badou, etc. Mais bon, c'est rigolo. Enfin, je sais pas, il n'y a pas de sérieux. Il n'y a pas de sérieux. Y a les hommes, ils ont... Bah, tout à l'heure, j'entendais le petit jeune. C'est mignon comme tout, mais c'est vrai que les hommes ont beaucoup de mal à s'engager. Ils disent, oh ben non, le mariage et tout. Ils ont du mal à s'engager. Ils ont du mal, ils ont l'impression qu'on va leur mettre la corde au cou, ce qui est quand même pas toujours le cas, quand même.
Bon, Evelyne, je vous coupe parce qu'on va faire le débrief. C'est dommage parce que j'aurais bien prolongé, mais il est 14h24 déjà et Laurent Tessier est dans le studio.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Parlons d'amour, dimanche c'est la Saint-Valentin, écoutons les plus belles chansons et puis...
Si on chantait, si on chantait, si on chantait, si on chantait...
Allez-y Pascal, poussez la chansonnette.
Je vais essayer de pas chanter parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit « faut que t'arrêtes de chanter sur les chansons ».
Non ! Pas vous Pascal, donnez-nous au moins un programme sensuel pour dimanche.
Dimanche matin par exemple. Dans la chambre,
oui.
Un petit Elvis, au moment où votre compagne ou vos compagnons se réveillent et vous lui susurrez à l'oreille, Elvis Presley.
Eh bien, susurrons tous ensemble, ou sinon voyons avec Christophe qui gère un club libertin en temps normal, si tout était ouvert.
Ah ben, il peut se passer plein de choses, mais bon, c'est une thématique de soirée avec des belles couleurs, avec du rose, des
rouges. Je n'en doute pas, mais faut peut-être prévenir sa compagne. C'est vrai que le geste barrière dans un club libertin, il est peu respecté.
Ah oui, ça c'est sûr, c'est compliqué. Dans l'émission, nous prenons soin des uns et des autres. J'ai passé une annonce pour notre community manager Pierre-Louis, les célibataires. Et Pascal, vous avez tenté de le caser avec Marine au 3210.
Bah j'ai personne avec qui la fêter, donc voilà.
Bah oui, vous faites partie des 18 millions de célibataires.
Exactement.
Et vous avez entendu la petite annonce tout à l'heure de l'ami Laurent Tessier, il y a Pierre-Louis qui est tout seul.
Oui, j'ai entendu.
Il est sympathique Pierre-Louis.
Oui.
Ah ouais, bah voilà, bon, ça sent le râteau j'ai l'impression. Hein.
Marine n'avait pas l'air très opé.
Puis à quel âge il a Pierre-Louis?
J'ai 27 ans, Pascal.
Bon.
Mais que Pierre-Louis se rassure, message de Clotilde sur la page Facebook. J'ai entendu dire qu'il cherchait quelqu'un avec qui passer la Saint-Valentin, alors je lui fais signe. Clotilde, oui, mais on ne peut pas parler d'amour sans un nouvel épisode des aventures de Flavie et Pascal. Et cette semaine, je peux vous dire que ce fut très dur.
Je vous manque là ou pas là,
parce oui, parce que vous n'êtes pas dans le studio. Effectivement, ouais. Aujourd'hui, je sais
bon,
pas
non, aujourd'hui, je boude. Voilà, je suis dans mon coin.
Alors, pour faire revenir Flavie, Pascal, vous avez sorti l'arme des compliments.
Flavie est magnifique aujourd'hui.
Aujourd'hui.
Non, mais ça, c'est impossible.
Continuez, Pascal. Vous êtes sur la bonne lancée.
Vous m'appelez maîtresse Flavie aujourd'hui, c'est vrai que ça me va tellement bien.
Bah oui, effectivement, ouais. Il y a chez vous cette autorité naturelle.
Oui,
que naturellement, on se plie à votre.
Bah, c'est un peu ce
à vos désirs.
Hey, ça marche, Flavie est en train de céder.
J'aimerais tellement plus qu'on se plie à mes désirs, oui, je ne suis pas encore totalement satisfaite.
Bon, il est bientôt 14h30, l'heure dont on est fait pour s'entendre.
S'il vous plaît, Madame Flamand est demandée. Madame Flamand est demandée au parloir. Madame Flamand.
Bon, Flavie Pascal, qu'avez-vous pensé de ce débrief?
Ah, c'est formidable.
Ah oui, c'est bon.
Mais ouais, le débrief pour cette semaine, c'est terminé. On se quitte avec la chanson qui va vous faire danser dans le lit dimanche matin. It's fun to stay at the Vous faites pas la Corée?
Je connais mal la Corée, mais
c'est bizarre,
est entrée dans le studio et c'est elle qui va nous parler de la Saint-Valentin et peut-être rester avec nous, nous faire des confidences intimes. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud sur RT.